Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 16 décembre 2021. En direct de Washington, Jean-Roger Guillon et Mohamedou Oumfa. On commence par les titres.
Washington met en garde le Mali contre les mercenaires russes de Wagner. Le chef de la diplomatie américaine a indiqué que leurs activités n'apporteront pas la paix au Mali, mais déstabiliseront davantage le pays.
Coup d'état présumé à Madagascar, la perpétuité a été requise contre les deux Français impliqués.
Ici aux États-Unis, le président Joe Biden s'est rendu mercredi dans le Kentucky. Une visite dans les zones sinistrées après les tornades du week-end.
L'ex-policier Derek Chauvin plaide finalement coupable dans la mort de George Floyd.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Mise en garde de Washington à Bamako concernant Wagner, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken prévient le Mali contre des conséquences financières et une déstabilisation du pays si le gouvernement recrutait le groupe de sécurité russe Abdourahman Dia.
Dans un communiqué, le chef de la diplomatie américaine indique que les forces de Wagner, connues pour leurs activités déstabilisatrices et leurs violations des droits humains, n'apporteront pas la paix au Mali, mais déstabiliseront davantage le pays. Washington exhorte Bamako à ne pas détourner les maigres ressources budgétaires de la lutte contre le terrorisme menée par les forces armées maliennes. Les richesses du pays, y compris les concessions minières, devraient revenir au peuple malien et ne pas être hypothéquées au profit de forces étrangères qui n'ont aucun compte à rendre et qui ont l'habitude d'abuser des populations locales et de compromettre le contrôle que le pays hôte exerce sur leur propre territoire, a-t-il affirmé. M. Blinken suggère que le partenariat avec Wagner pourrait coûter 10 millions de dollars par mois au Mali. Les États-Unis, suivis par l'Union européenne lundi, ont imposé des sanctions contre le groupe Wagner. M. Blinken a regretté mercredi le refus malien d'un déploiement de forces supplémentaires de l'ONU qui aurait, selon lui, contribué à la protection des civils.
Le Parlement bissau-guinéen a voté mercredi une résolution qui considère comme nul et sans effet un accord entre le président Oumarou Sissoko Embalo et son homologue sénégalais Macky Sall sur l'exploration pétrolière de la zone maritime commune entre les deux pays. L'accord signé en octobre à Dakar établit une clé de partage qui attribue 30% des ressources à la Guinée-Bissau et 70% au Sénégal.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé mercredi à l'unanimité une résolution prolongeant de 5 mois sa mission de paix à Abyei, une région frontalière et pétrolière disputée entre le Soudan et le Soudan du Sud, en réduisant ses effectifs de casques bleus. La résolution rédigée par les États-Unis prévoit une extension jusqu'au 15 mai 2022 et une réduction du nombre de militaires à 3250 contre les quelques 4000 autorisés jusqu'à présent dans la mission Fisnua, dont le mandat expirait jeudi soir.
Un vidéojournaliste indépendant travaillant pour Associated Press, EPI, a été arrêté en Éthiopie, pays en guerre depuis plus d'un an, ont annoncé mercredi l'agence de presse américaine et des médias d'État. EPI a demandé la libération immédiate d'Amir Aman Kiaro, qui a été arrêté dans la capitale Addis Abeba le 28 novembre au retour d'un reportage.
Le journaliste d'EPI a été arrêté en même temps que deux autres journalistes locaux identifiés par les médias d'État comme Thomas Edinga et Adichou Mounle. Des images des trois hommes ainsi que leurs cartes d'identité ont été diffusées par les médias d'État dans un reportage vidéo sur leur arrestation.
La défense du franco-rwandais Claude Muyamana, contre qui 15 ans de réclusion criminelle ont été requis mercredi à Paris pour complicité du génocide, a dénoncé le caractère politique d'un procès constituant, selon elle, un enjeu majeur pour le régime de Kigali. Claude Muyamana, 60 ans, ancien chauffeur d'hôtel à Kibuye, dans l'ouest du Rwanda, est jugé depuis le 22 novembre devant les assises de Paris pour complicité de génocide, accusé d'avoir transporté des tueurs sur des lieux de massacre de Tutsi.
La justice malgache a requis hier mercredi la réclusion à perpétuité pour 5 des 20 personnes accusées d'avoir fomenté un coup d'État contre le président André Rajoel, dont 2 Français, tandis que la défense insistait sur l'innocence de leurs clients. Les précisions de John Lyndon.
Si vous avez suivi ce procès depuis le début, vous aurez pu remarquer les mensonges et les pièces qui ne collent pas déclare d'une voix rauque l'avocat général Arsène Rabé en énumérant dans un tribunal de la capitale les charges accablantes selon lui contre les accusés, non sans soulever des incohérences dans leur défense. Les 20 prévenus, dont un ancien colonel de l'armée française et un franco-malgache, appartenaient à une organisation criminelle cherchant à commettre un attentat contre le président malgache, a poursuivi M. Rabé. Ils ont mis sur pied le projet baptisé Apollo 21 grâce à des mails, des armes et de l'argent saisi lors de perquisitions, a-t-il résumé, réfutant point par point les arguments de la défense qui a tenté de montrer que les liens entre les accusés n'étaient pas solidement établis et que la présomption d'innocence n'avait pas été respectée. Les accusés dans ce dossier sont poursuivis pour atteinte à la sûreté de l'État, association de malfaiteurs et complot en vue d'assassiner le président.
L'Afrique du Sud a enregistré mercredi un nombre record de 26 976 infections au Covid-19 en 24 heures. Le variant Omicron, qui présente de multiples mutations, a été détecté fin novembre pour la première fois en Afrique du Sud. Le chef d'État sud-africain Cyril Ramaphosa a lui-même été testé positif au virus, bien qu'il soit complètement vacciné, selon la présidence sud-africaine.
Le premier cas d'infection au variant Omicron du coronavirus a été détecté au Maroc. Ce premier cas de contamination par la nouvelle souche du Covid-19 a été détecté chez une citoyenne marocaine dont l'état de santé est stable et ne suscite pas d'inquiétude, a indiqué mercredi le ministère de la Santé dans un communiqué. La patiente a été placée sous supervision médicale dans un hôpital de Casablanca, la capitale économique du royaume. L'OMS a averti mardi que le variant Omicron se propageait à un rythme inédit et exhorté les pays à agir rapidement pour freiner sa transmission.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden a visité mercredi les zones dévastées par les tornades du week-end dernier dans le Kentucky, où au moins 74 personnes ont trouvé la mort. Jenny Kapumbu-Villa.
Je suis ici pour vous écouter. C'est ce qu'a déclaré le président Biden en visite à Mayfield dans le Kentucky, une des 10 villes ravagées par la tempête. Plus de 30 tornades ont ravagé le Kentucky et 7 autres États, tuant au moins 88 personnes. Des milliers d'habitants ont perdu leur maison ou sont privés d'électricité. Appelant à l'unité, le président a également rappelé qu'il n'y a pas de tornade rouge et de tornade bleue, faisant allusion aux couleurs des partis politiques républicains et démocrates dans cette région fortement républicaine. La visite du président a été accueillie avec optimisme par de nombreux habitants. La FEMA, l'Agence fédérale de gestion des urgences, a notamment envoyé des dizaines de générateurs ainsi que 511 000 litres d'eau, 74 000 repas pour subvenir aux sinistrés.
Pendant que le président visitait le Kentucky, le service des prévisions météorologiques du gouvernement américain a mis en garde contre de nouveaux épisodes de vents violents et parfois des tempêtes dans plusieurs États du centre du pays.
L'ancien agent de la police de Minneapolis, Derek Chauvin, a annoncé mercredi devant un tribunal fédéral américain qu'il plaidait coupable d'avoir violé les droits civils de George Floyd, revenant sur sa décision initiale de plaider non coupable dans cette affaire. Les précisions de Lionel Gaïma.
Derek Chauvin, 45 ans, a déjà été condamné par la justice de l'État du Minnesota pour meurtre et homicide involontaire pour avoir provoqué la mort de George Floyd en mai 2020 en pressant pendant 9 minutes son genou contre le cou du suspect afro-américain malgré les supplications de ce dernier qui disait ne plus pouvoir respirer. Il a écopé de 22 ans et demi de prison. L'ancien policier blanc avait annoncé en septembre qu'il plaiderait non coupable lors du second procès qu'il attendait, devant la justice fédérale cette fois, pour violation des droits civils de George Floyd, devenu malgré lui un symbole de violence systémique de la police américaine contre la communauté noire. Derek Chauvin risque la prison à vie lors de ce second procès, mais sa décision de plaider coupable pourrait lui avoir une relative indulgence du procureur fédéral. Le procès des 3 autres policiers qui avaient participé à l'interpellation de George Floyd le 25 mai 2020 doit s'ouvrir en mars devant un tribunal de l'État du Minnesota.
Les dirigeants des 27 vont tenter aujourd'hui d'améliorer leur coordination face à la flambée de Covid et à la rapide progression du variant Omicron qui a poussé plusieurs pays de l'Union européenne à restreindre les conditions d'entrée sur leur territoire de façon unilatérale. La menace d'un nouveau conflit entre Moscou et Kiev sera également une dominante de ce sommet.
Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique.
À présent, la minute éco avec Eric Manirakiza.
Le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, a appelé à un nouveau partenariat entre l'Afrique et l'Europe, en passant d'une relation donateur bénéficiaire à une relation d'égal à égal. Il a également insisté sur la responsabilité de l'Afrique dans cette relation. Nous devons être autonomes, nous débarrasser de l'image de mendiants vivant de la charité, de l'aide, de l'assistana, et faire un usage plus intelligent de nos abondantes ressources naturelles afin de nous sortir de la pauvreté et d'accéder à la prospérité, a déclaré le président du Ghana. La dette mondiale a atteint l'an passé le niveau record de 226 milliards de dollars, soit 256% du produit intérieur brut mondial, a annoncé mercredi le FMI. L'accumulation de dettes publiques est la conséquence directe de deux crises économiques majeures, la crise financière mondiale de 2008, puis la pandémie de Covid-19. Cela représente une hausse de 28%, la plus forte depuis la Seconde Guerre mondiale. La seule dette des gouvernements représente près de 40% la dette mondiale totale, soit la part la plus élevée depuis le milieu des années 1960. Un groupe de 45 pays, dont l'Union européenne, mais pas la Chine ni les États-Unis, sont convenus d'éliminer progressivement les subventions inefficaces aux combustibles fossiles qui incitent au gaspillage et d'établir un calendrier pour y parvenir.
Place maintenant au sport avec Élisée Oumpatine.
Bonjour Jean-Roger et bonjour à tous. Le football à Doha au Qatar pour commencer, avec la Coupe arabe des nations. Et on aura une finale 100% africaine pour cette première édition. L'Algérie, vainqueur 2-1 du pays hôte, le Qatar, après prolongation dans un match fou, affrontera la Tunisie qui a écarté les pharaons d'Égypte 1-0, but marqué en toute fin de match. Algérie-Tunisie, ce sera donc samedi prochain, toujours à Doha, direction le Cameroun. Et à moins d'un mois du début de la Coupe d'Afrique des nations, le stade qui accueillera le match d'ouverture et la finale est enfin prêt, selon le secrétaire général de la CAF, une nouvelle fois en visite dans le pays. Les travaux du stade d'Olimbé de Yaoundé, qui devraient être livrés fin novembre dernier, avaient accusé de retard. Mais sur place, Véron Mosengo se veut rassurant au micro de la télévision publique camerounaise.
C'est magnifique, c'est un des plus beaux stades que j'ai jamais vu. J'aurais aimé être joueur pour jouer dans ces stades. Ça, c'est ma quatrième visite. Les choses avancent très bien. Il y a certaines choses qui m'inquiétaient auparavant. J'ai reçu des certitudes et des constructeurs et des maîtres de l'ouvrage et des maîtres de l'œuvre aussi. Je suis très content.
Pour cette CAN qui va démarrer dans quelques semaines, l'Association des clubs européens de football menace de ne pas laisser les joueurs africains évoluant sur le vieux continent aller disputer cette compétition, évoquant le contexte sanitaire actuel. Le CA, dans une lettre adressée à la FIFA, indique que les clubs ne laisseront pas leurs joueurs aller au Cameroun sans avoir de très sérieuses garanties sur la protection contre le coronavirus. On reste à Yaoundé au Cameroun avec la Basketball Africa League et on connaît les deux premier qualifié pour la phase finale prévue à Kigali au Rwanda l'année prochaine. Les Camerounais de FAP, facile vainqueur des Congolais d'Espoir Foucault 70-56 et les Guinéens de Slack qui ont créé la surprise en dominant les Maliens de l'AS Police 81-78. Les deux équipes vaincues s'affronteront donc pour le dernier ticket qualificatif. De la NBA pour finir et avec vous Jean Rouget, les résultats de la nuit.
Utah Jazz, Los Angeles Clippers 124-103, San Antonio Charlotte 115-131, Portland Memphis 103-113, Sacramento Washington 119-105, Denver Minnesota 107-124, Milwaukee Indiana 114-99, Oklahoma City La Nouvelle Orléans 110-113, Cleveland Houston 124-89, Orlando Atlanta 99-111, Philadelphie Miami 96-101 et Dallas Lakers 104-107.
monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Jean-Roger Billon, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les Nations Unies organisent à partir de ce jeudi à Dakar une rencontre de deux jours sur le rôle des chefs religieux et traditionnels dans la résolution des conflits en Afrique de l'Ouest, sous le thème « Contribution des légitimités religieuses et traditionnelles à la consolidation de la paix, la prévention et la résolution des conflits en Afrique de l'Ouest et au Sahel ». Les participants veulent mettre en relief l'importance de ces leaders dans la lutte contre l'extrémisme. Pour en parler, Abdourahmane Dia, adjoint à Dakar, l'un des facilitateurs de cette rencontre, Bakary Sambé, directeur de Timbuktu Institute.
D'abord, on s'est rendu compte que les solutions strictement sécuritaires et militaires jusqu'à présent n'ont pas permis de régler la question du terrorisme. Et on se rend compte que malgré toutes ces stratégies-là, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et à partir de là, une réflexion a été amorcée pour réfléchir sur les possibilités d'aller au-delà des seuls acteurs institutionnels et de la communauté internationale, mais de se lancer dans cet exercice qui consiste justement à améliorer les conditions de cette écoute nécessaire tout en accordant la dignité des solutions aux solutions endogènes. Et je crois que ça vise à privilégier l'esprit de co-construction qui tranche avec les solutions classiques, souvent dupliquées et sans contextualisation, et une prise en compte finalement des référentiels culturels qui ont toute leur importance pour une meilleure appropriation des solutions proposées.
Dans le Sahel, il y a une poussée extrémiste qui est réelle, même dans des pays où il n'y a pas d'attaque djihadiste, alors que ces États sont des États laïcs. Comment concilier un peu les deux entre faire appel aux religieux tout en essayant de préserver le caractère laïque de ces États?
C'est le paradoxe que vivent beaucoup de pays qui, dans leur constitution, sont laïcs, certes, mais qui, au regard de la situation sécuritaire, sont amenés à gérer les religions. Et je pense que aujourd'hui, il faudrait essayer de voir dans quelle perspective on pourrait réinterroger cette laïcité-là à l'aune et à la lumière des réalités locales.
Et dans le cas du Sénégal, par exemple, il y a le rôle des confréries.
Oui, le Sénégal a cette spécificité d'avoir ses confréries religieuses qui ont un rôle très important et un impact dans la société, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays où les confréries n'ont pas le même statut dans ces pays-là. Mais toutefois, on l'a vu aussi bien au Niger, au Mali, au Burkina Faso, le rôle du Moronaba, on a vu le rôle du personnage comme l'imam Tiko pour ce qui est du cas du Mali. Nous avons vu aussi l'implication de Monseigneur Ouédraogo pour le Burkina Faso et le rôle que jouent les organisations islamiques au Niger, etc. Et même dans la déradicalisation, le rôle joué par les relèvements mauritaniens. Je pense que ce sont un ensemble de faits qui sont cités parfois, mais qu'on n'a pas encore réussi à documenter pour en faire un socle de bonnes pratiques qui pourraient inspirer une pleine implication des leaders religieux et traditionnels dans la recherche de solutions au Sahel où on est actuellement vraiment proie à des attaques infinies et à une situation sécuritaire qui se dégrade de jour en jour.
C'était le professeur Bakary Sambé, joint à Dakar. Noma, maladie défigurante que l'on trouve principalement dans les régions pauvres d'Afrique subsaharienne qui manque de soins de santé, tue 90% des victimes, pour la plupart des enfants, lorsqu'il n'est pas traité. Le Noma peut être évité grâce à la sensibilisation et à cette fin, les groupes d'aide demandent instamment à l'Organisation mondiale de la santé d'ajouter le Noma à sa liste des maladies tropicales négligées. C'est dans la localité de Kongoussi au Burkina Faso qu'Henry Wilkins de VOA est allé à la rencontre des malades du Noma. Le récit est de Rosine Monezero.
Amadou Compaoré, 8 ans, s'est récemment remis du Noma, une maladie tropicale peu connue qui tue les 9 dixièmes de ses victimes si elle n'est pas traitée. Beaucoup de ceux qui survivent au Noma sont défigurés. Bien que le Noma ait laissé des cicatrices sur son visage, Amadou, relativement parlant, fait partie des chanceux. Si le Noma est diagnostiqué dans les premières semaines de l'infection, il est facilement traitable avec un antibiotique. Sibiri Compaoré, et le père d'Amadou. Il nous en dit plus sur la maladie de son fils.
Nous avons remarqué la maladie à l'approche de Noël. D'abord, il disait avoir mal à la bouche au point de ne plus pouvoir manger. Il avait même beaucoup de mal à boire des sachets d'eau.
Compaoré a amené son fils dans la ville la plus proche, Kaya, à environ 25 km, où le personnel médical a pu identifier la maladie grâce à la sensibilisation de l'organisation non gouvernementale suisse, Sentinelle. Sidi Omar Bouena est infirmier dans un centre médical de Sentinelle à Ouagadougou, spécialisé dans le traitement du Noma.
Parce que la plupart de nos agents de santé au Burkina ici, beaucoup ignorent la maladie du Noma. Donc, quelqu'un peut dire que c'est le Noma, mais qui est à 400-500 km de Ouaga.
Il dit qu'il est parfois obligé de diagnostiquer le Noma avec des photos qui lui sont envoyées via WhatsApp. Le Noma n'est qu'une des nombreuses maladies qui ne figurent pas actuellement sur la liste des maladies tropicales négligées de l'Organisation mondiale de la santé. Médecins sans frontières, une ONG médicale, mène une campagne pour que le Noma soit ajouté à la liste de l'OMS, qui comprend déjà des maladies comme la rage et la dengue. Claire Jantet est responsable de la campagne Noma de Médecins sans frontières.
At community level, because there is a... Bien sûr, il y a une discrimination qui touche les patients, et donc à chaque fois qu'il y a un cas, on peut même ne pas être au courant parce que les patients sont cachés par les communautés où ils sont en train de mourir. On estime que plus de 90% des personnes meurent.
L'OMS affirme que lorsqu'elle ajoute des maladies à la liste, des facteurs comme la stigmatisation sociale et les taux de mortalité sont pris en compte. Ashok Molo, attaché de presse de l'OMS, explique l'effet de l'ajout d'une maladie à la liste.
Cela porte vraiment la maladie ou l'état à un autre niveau. Il s'agit de la catégorie A, risque le plus élevé. Alors un programme mondial est construit autour de la maladie pour s'attaquer à cette maladie.
Quant à Amadou Compaoré, il dit que ce que les médecins ont fait pour l'aider a été une source d'inspiration. L'OMS prévoit d'ajouter éventuellement de nouveaux éléments à sa liste de maladies tropicales négligées en 2023. Reste à savoir si le Noma en fera partie.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
L'extraction du diamant brut au Cameroun fait face à de nombreux défis, dont notamment la sécurité. C'est ce que révèle un rapport annuel sur la surveillance du processus de Kimberley qui vise à l'amélioration de la gouvernance dans le secteur du diamant. Ce défi sécuritaire est lié au fait que les deux principales régions diamantifères partagent environ 729 km de frontières avec la République centrafricaine qui traverse un conflit armé. Mise en perspective, Emmanuel Jules Ntap à Yaoundé.
Plusieurs sites d'extraction du diamant dans les régions de l'est de la Damawa sont situés à la frontière avec la République centrafricaine. À ce point, les frontières sont poreuses, d'après le rapport du projet sur la surveillance indépendante dans le secteur diamantifère. Christian Anangui, chef de projet au RELUFA, le réseau de lutte contre la faim, une organisation de la société civile.
L'infiltration des diamants, que ce soit du côté de la RCA, que ce soit du côté du Cameroun, pose un problème véritable. Les diamants qui viennent du côté du Cameroun et qui sont achetés par certains Camerounais ou bien des personnes de nationalité autre, il est fort probable que cela contribue au financement ou exacerbe le conflit qui se trouve, n'est-ce pas, dans ce pays.
En adhérant en 2011 au système de certification du processus de Kimberley, le Cameroun s'est engagé à créer un circuit transparent de contrôle interne du diamant brut à partir du lieu d'extraction jusqu'à la commercialisation. Ce défi est encore loin d'être relevé, souligne Sandrine Kouba du RELUFA, le réseau de lutte contre la faim.
La plupart des artisans ne sont pas enregistrés. Les autorisations pour l'exploitation ne sont pas véritablement obtenues. Les transactions entre les différents acteurs de la chaîne de production et de commercialisation se font entre des acteurs non conformes en fait. On pourrait aussi noter l'absence de bureaux d'achat à l'Est en particulier.
Selon le code minier qui date de 2016, l'extraction artisanale du diamant est réservée aux nationaux, mais un grand nombre d'artisans miniers étrangers exercent l'activité. Paul Richard Ananga, chef de projet du CPDIC, le Centre de protection de l'environnement et de la défense des intérêts communautaires, une ONG ayant participé à la collecte des données sur la surveillance du processus de Kimberley.
Le personnel affecté dans les zones d'exploitation, surtout celui de la surveillance, ne sont pas en grand nombre, afin de pouvoir vérifier le transport, bien le transit du diamant quittant du pont d'exploitation pour l'acheminement.
Pour réduire la contrebande des diamants bruts et la fuite des capitaux au Cameroun, le ministère des Mines a créé en 2012 le secrétariat permanent du processus de Kimberley. Son secrétaire national permanent adjoint, Maurice Bokou, se prononce sur le contenu du rapport.
L'activité du diamant, elle est encore artisanale au Cameroun. Bien, donc c'est un rapport qui reflète certaines réalités et nous sommes là en train de mettre sur pied certains mécanismes dans le cadre de l'amélioration du processus de traçabilité et de certification du diamant dans notre pays.
Le Cameroun rapporte une production annuelle moyenne d'environ 2000 carats avec une valeur d'environ 260 000 dollars américains. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Au Congo-Brazzaville, les mélomanes continuent de saluer la reconnaissance de la rumba comme patrimoine immatériel universel. La rumba, dansée sur les deux rives du fleuve Congo, est une musique qui unit toutes les générations et est beaucoup appréciée hors de Brazzaville et de Kinshasa. Le reportage d'Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
C'est sous cette musique composée par l'artiste Johnson, philosophe de Super Colomboka, que les deux Congos ont porté le dossier de la rumba devant l'UNESCO. Le musicien exprime sa joie.
Voilà, donc inscrire la rumba congolaise dans la liste du patrimoine mondial de l'humanité, c'est une fierté, un honneur pour les peuples d'Afrique. Parce que la rumba congolaise a conquis non seulement l'Afrique centrale, mais toute l'Afrique et le monde.
La rumba est une musique ancienne qui se danse à deux, l'un serré contre l'autre. Elle raconte la vie en société. C'est cette histoire que l'analyste sociale Gakoso Obambe souhaite partager avec le monde entier.
Et ça peut donner aussi l'occasion effectivement d'organiser des débats, des colloques, des séminaires sur l'histoire de la rumba, le rôle que la rumba a eu à jouer dans les indépendances, sur les deux rives, et la manière dont la rumba effectivement a pénétré nos familles, au point que c'est quelque chose d'incontournable. Partout où l'on va, on ne peut pas s'en passer.
Le chroniqueur musical Priva Turbis Masanga estime que plusieurs musiciens auraient pu être aujourd'hui heureux d'apprendre cette reconnaissance.
Mais je crois que ça aurait fait plaisir à des artisans qui ont travaillé pour le rayonnement de la rumba, comme Samba Dio, Carno Mabala, Saint Lazare, bien entendu Orlus Mabélé et bien d'autres artistes.
Pour l'universitaire Inès Févillier, la rumba est une expression de lutte politique et sociale dans les deux Congos.
Alors quand vous entendez une chanson comme « Indépendance, cha-cha, tozouye, odipanda, cha-cha, tubakiri », ça veut dire que la rumba a été même politique. Elle a accompagné la politique de nos pays, elle a accompagné l'indépendance. Donc ce n'est pas que festif, ce n'est pas que culturel, mais c'est aussi politique, c'est beaucoup de choses.
Maintenant que la rumba est mise sur orbite, il va falloir bosser dur pour qu'elle soit indéfiniment inscrite comme patrimoine mondial. Le mélomane Alain Akwala appelle les musiciens à continuer à écrire des beaux et profonds textes.
Nazali mwana Congo, nalingi mboka na ngai, nakokende wapi.
Ça c'est l'orchestre national du Congo. Lorsqu'ils ont représenté notre pays au Festac en 1978 à Lagos, c'est qu'il va falloir maintenant que les artistes musiciens fassent un grand effort dans la composition de leurs chansons, qu'on retrouve justement des textes d'antan où à travers une chanson il y avait un message.
À Brazzaville comme à Pointe-Noire et sur l'ensemble des deux Congos, la rumba demeure la musique de référence et de l'unité. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Voilà, ce sera tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Au micro, Jean-Roger Billon et Mouamadou Mfa, à la mise en onde Lionel Gaïma et à la technique Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.